9h, 11h. Philippe Vandel.
Mais oui, 9h, 11h, merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement avec notre nouvel horaire, celui du début d'ailleurs. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h pour la partie culture de l'émission. Nous serons avec le réalisateur Claude Lelouch dans un instant pour sa première interview radio au sujet de son nouveau court-métrage tourné hier seulement à Monaco. Des rues vides, une Ferrari et un comédien qui n'en est pas un. Ce sera juste après le journal de la culture. Nos indispensables, un livre en compétition pour le prix Europe 1 GMF et le bilan de l'impact de la crise sanitaire sur le secteur des jeux vidéo. En fin d'émission, le portrait inattendu de Leïla Slimani. Bonjour Hélène Manarino.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
Content de vous entendre à cette heure-là, 10h03 en direct, le journal de la culture, journal qui commence malheureusement, Hélène, par la disparition d'un grand amoureux des mots.
Académicien, parolier, scénariste, écrivain, Jean-Loup Dabadie est décédé hier à l'âge de 80 ans. Alors très jeune, il collabore à des émissions de télé, notamment avec Guy Bedos, puis il travaille avec Sylvie Joly, Pierre Palmade, Muriel Robin. Jean-Loup Dabadie, considéré comme un amoureux de la vie. Alors il se lance dans le cinéma, on lui doit 22 scénarios, comme le film Les choses de la vie de Claude Sauté avec Michel Piccoli, disparu la semaine dernière. Il signe d'ailleurs la chanson du film aussi, interprétée par Romy Schneider et Michel Piccoli, la chanson d'Hélène. Comme scénariste aussi du film César et Rosalie, une histoire simple, un éléphant, ça trompe énormément. Mais finalement, les mots de Jean-Loup Dabadie, vous les avez tous chantés, au moins une fois. 300 chansons figurent à son répertoire. Il a écrit pour Barbara, Claude François, Juliette Gréco, Johnny Hallyday, Yves Montand. Nous lui devons On ira tous au paradis de Michel Polnareff, mais aussi Lettre à France ou encore L'Italien de Serge Reggiani. Mais surtout, il a été le plus fidèle compagnon d'un certain Julien Clerc, à qui il a offert entre autres ça.
Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. Autour d'elle et moi, le silence se fait. Mais elle est ma chance à moi.
Vous avez reconnu ma préférence, ces femmes, je vous aime. Julien Clerc a réagi hier soir en affirmant « C'est un grand frère qui disparaît ». Jean-Loup Dabadie est élu d'ailleurs à l'Académie française grâce à sa carrière de parolier. Nous sommes le 10 avril 2008. Jean-Loup Dabadie devient donc un immortel et il le restera.
Voilà pour cet hommage Hélène et on continue ce journal avec un appel de plusieurs artistes pour soutenir la scène française.
Une tribune publiée dans le journal du dimanche. Ils sont près de 140 artistes comme Clara Luciani, Jean-Michel Jarre, MC Solar, Laurent Voulzy, Brigitte, mais aussi des festivals qui appellent à soutenir financièrement la scène musicale française. Ils s'attaquent à la question des droits d'auteur que beaucoup d'artistes touchent beaucoup moins avec le contexte. Les signataires demandent par exemple de diffuser des œuvres francophones et françaises sur les antennes et dans les programmations pour assurer des revenus en droits d'auteur. Une perte de revenus qui s'inscrit dans la durée puisqu'avec la disparition des concerts, les artistes ne peuvent plus toucher leurs droits. Dans cette tribune, ces artistes signataires affirment que chaque talent aujourd'hui est déstabilisé. Selon eux, il y a urgence à ce que nous donnions à tous ceux qui font rêver les moyens de continuer à vivre. Je rappelle que la SACEM, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, a enclenché un plan d'urgence de 43 millions d'euros.
Et le CNM, le tout nouveau Conseil national de la musique, le comité a un plan d'urgence de 50 millions d'euros. Toutes les pierres sont bonnes à ajouter à l'édifice. On passe à une autre tribune, publiée dans Le Monde cette fois-ci, elle concerne le secteur du livre.
Plus de 625 auteurs, éditeurs et libraires demandent au président de la République un plan de relance concernant ce domaine très fragilisé. Tous les signataires alertent, le monde du livre est en danger. Distributeurs, diffuseurs et imprimeurs ont tous été impactés par la fermeture des librairies. Les maisons d'édition ont perdu plus de 80% de leur chiffre d'affaires. Et les pertes sont évaluées à 500 millions d'euros. Ils souhaitent une aide de l'État avant l'été pour y faire face. Ils demandent des subventions, exonération de charges sociales par exemple, que la demande soit encouragée avec des commandes importantes pour les bibliothèques ainsi que des opérations mises en place liées au passe culture et au chèque lire. Franck Riester, le ministre de la Culture, a annoncé vendredi qu'il travaillait avec le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, à un plan de soutien de la chaîne du livre. Il promet des mesures à la fin de la semaine.
Et puis les librairies sont ouvertes, allez-y. On passe à de bonnes nouvelles maintenant. L'Atelier des Lumières à Paris va rouvrir ses portes mardi.
Et oui Philippe, il sera l'un des premiers musées parisiens à de nouveau accueillir du public. Après 2 mois de fermeture, alors plusieurs mesures sanitaires sont mises en place évidemment. Avant de se rendre à l'Atelier des Lumières, le public choisit un horaire sur internet. Port du masque obligatoire, prise de température à l'entrée, gel hydroalcoolique à disposition, pas de vestiaire et pas de regroupement pendant la visite. Bonne nouvelle, les visiteurs pourront retrouver l'exposition Monet, Renoir, Chagall, Voyage en Méditerranée. Elle avait été lancée le 28 février dernier, mais elle avait été interrompue. Le bar de l'Atelier des Lumières, le studio, lui, reste inaccessible pour le moment.
Voilà, le bar est accessible. Merci beaucoup Hélène Manarino. On vous retrouve demain pour un nouveau journal de la culture. À demain.
Dans un instant, c'est Claude Lelouch qui sera l'invité de Culture Média. En attendant, je vous propose un peu de musique avec Michel Polnareff et ce titre « Dans la maison vide » dont les paroles ont été écrites par Jean-Loup Dabadie. Hélène Manarino nous en parlait il y a quelques instants. Il nous a quittés hier et on continue à lui rendre hommage ce matin sur Europe 1.
Je me souviens de ce musicien, c'était l'automne à la maison. Je me souviens de ce musicien, c'était l'automne sur son violon. Le temps n'est plus où passaient les violons quand tu étais dans la maison. Il attend plus depuis tant de saisons. Le temps n'est plus au violon. Moi, dans ma maison vide, dans ma chambre vide, je passe l'été à écouter cette symphonie qui était si belle et qui me rappelle. Ce musicien, un soir d'adieu à la maison. Je me souviens, moi, de ce musicien et de l'adieu sur son violon. Et chaque année, lorsque l'année finit, j'entends le violon de septembre. Et le passé, comme une symphonie, fait son entrée dans cette chambre.
C'était Michel Polnareff avec Dans la maison vide sur Europe 1. Europe 1. Il a choisi Europe 1 pour nous parler de ses projets, notamment d'un remake du court-métrage. C'était un rendez-vous tourné hier à Monaco. C'est Claude Lelouch qui est l'invité de Culture Média et on l'accueille dans un instant sur Europe 1.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
Claude Lelouch sera avec nous dans un instant, Philippe Vandel. Mais en attendant, on va parler littérature avec Nicolas Caro.
Bonjour Nicolas Caro.
Ah, il n'est pas là, Nicolas Caro.
Ah non, alors Nicolas Caro doit être là, doit nous rejoindre. Mais alors peut-être ce qu'on pourrait faire en attendant que Nicolas arrive, on va tout vous raconter. On a un problème de liaison avec Claude Lelouch. Donc ce qu'on va faire, on vous avait promis que nous allions rediffuser tous les jours un portrait inattendu d'Hélène Manarino. Vous l'aurez à la fin de cette émission.
Je crois qu'il arrive, Nicolas
Caro. Et ce portrait inattendu, ce sera celui de Leïla Slimani. Et on reste au chapitre de la littérature, oui. Car le voici qui arrive. Il est essoufflé, il est en forme. Il a profité du confinement pour se faire un corps de jeune homme. C'est Nicolas. Nicolas Caro,
mais oui,
qui nous parle de littérature.
On a plus l'habitude d'avoir les personnes en studio avec
exactement,
nous.
Exactement,
hein.
Voilà. Et tous les jours de la semaine, vous serez avec nous, Nicolas, pour présenter les sélectionnés pour le prix Europe 1 GMF. Il s'agit de littérature. Je l'ai dit, et ce matin, vous nous présentez le premier roman, évidemment, puisque nous sommes lundi, sélectionné pour ce prix.
Ça s'appelle Le courage des autres. Beau titre. Hein. Ouais. Signé Hugo Boris chez Grasset. Hugo Boris, on le connaît notamment pour Police, vous savez, un roman adapté au cinéma avec Omar Sy et Virginie Efira, notamment,
oui.
Film de Anne Fontaine. Rien à voir avec ce nouveau livre, c'est l'histoire de l'auteur, Hugo Boris. Il est ceinture noire de karaté, il est vraiment très très fort, spécialiste notamment d'un coup de pied terriblement efficace, le Maigeri, un coup de pied de face. En 2007, il est témoin d'une scène très violente dans le métro, violente mais banale. Un jeune mec s'est endormi dans la rame. Il se réveille, cherche son sac, mais il a disparu. Alors il se met à invectiver tout le monde. Il prend à partie les voyageurs. Ça tourne mal. Un homme s'en mêle. Ils se battent. Hugo Boris pourrait intervenir puisqu'il est spécialiste de karaté. Mais il est sidéré. Il a peur, tout simplement. Et il finit par tirer la sonnette d'alarme et il s'en va avec le mouvement de la foule.
Mais là, on se dit, on vous écoute, on se dit qu'il a peut-être bien fait, non ? L'agresseur pouvait avoir un couteau ou que sais-je d'autre ?
Bah oui, et entre nous, j'aurais sans doute fait pareil, hein, bah. Mais moi, je suis pas spécialiste de karaté.
Ouais.
Et beaucoup d'entre nous auraient fait comme ça, mais lui, ça ne lui va pas. Il comprend pas comment il peut décrocher une ceinture noire de karaté et être pétrifié quand il s'agit de se battre pour de vrai. Il a plein d'excuses, mais il les rejette, il s'en veut terriblement.
Et il en fait un livre.
Oui, mais ça, ce n'est que le déclencheur. À partir de maintenant, il note. Il observe tous ses contemporains dans les transports en commun, dans le RER, le métro en particulier. Il habite en région parisienne et il consigne et il raconte. Il y a eu d'autres moments de frayeur, mais il y a aussi l'héroïsme du quotidien, parfois une simple situation cocasse ou poétique. Il observe, il admire aussi, par exemple, cette contrôleuse RATP qui répond très très calmement à une voyageuse très en colère, mais qui est dans son tort. Il admire le courage de la contrôleuse, donc, et son sang-froid, mais quand elle vient le contrôler lui, il se rend compte que la main de cette femme tremble un petit peu, elle a juste réussi à le dissimuler et ça fait toute la différence. Un jour, lui-même est un héros en bloquant la porte du RER pour laisser entrer 4 ou 5 personnes qui sans lui auraient été en retard, ouais. Ou quand il ouvre un sac oublié dans le train alors que tout le monde commence à penser au pire. En fait, il n'y avait qu'une brosse à dents là-dedans. Un jour, il se retrouve dans la rame d'un grand brûlé, il n'ose pas le regarder de peur de le dévisager. Un autre jour, il observe une vieille dame à côté de lui dans un RER bondé, ça s'énerve, ça s'invective, une femme prend à partie la vieille dame en lui demandant si elle n'est pas chaud avec ses manches longues. Alors la dame relève sa manche et montre des numéros tatoués sur son bras. Tout le monde a compris et tout le monde se tait.
Et là on comprend ce très beau titre, Le courage des autres. C'est un roman ou c'est une suite d'histoire, Nicolas ?
Ce sont des choses vues en fait, mais son histoire à lui avance aussi. Il avance, il se nourrit et il change en observant et nous on le suit, on est avec lui dans les transports en commun. C'est très beau, très intelligent et ça se lit comme un recueil de nouvelles très cohérent. On commence un nouveau chapitre en se disant, alors qu'est-ce qui va lui arriver cette fois et comment va-t-il réagir ? Trouvera-t-il le courage qu'exige la situation ? Et on se dit, et moi, qu'est-ce que je ferais à sa place ? C'est un roman, un livre sur le vivre ensemble.
Le courage des autres, donc chez Grasset, on l'a dit, c'est un prix qu'on va décerner. Il y aura quatre autres candidats. Et quand le prix sera-t-il décerné ? Quand allez-vous décider ?
Alors, c'est le prix Europe 1 GMF qui donc récompense un roman qui valorise une action collective. Donc celui-ci est pile dedans. Et la délibération de mémoire, c'est le 25 juin, mais je crois que je me trompe de date.
D'accord, mais c'est pas très grave.
On va vérifier.
Sera peut-être le 23, on vous dira. De toute façon, vous serez là demain pour rectifier, Nicolas.
Voilà, exactement.
On s'en réjouit. Le courage des autres chez Grasset, signé Hugo Boris. Merci Nicolas Caro, à demain.
Nos indispensables du jour continuent avec Clément Le Saffre qui dans un instant nous parlera, lui, des conséquences de la crise du coronavirus dans le monde du jeu vidéo. C'est juste après ça sur Europe 1.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Et nos indispensables du jour continuent. Philippe, on va parler coronavirus et jeux vidéo avec Clément Le Saffre.
Bonjour Clément Le Saffre.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Pardon de vous déranger, j'imagine que vous étiez chez vous en train de jouer aux jeux vidéo. Vous jouez à quoi en ce moment, Clément ?
Je me suis replongé dans un vieux jeu qui est sorti il y a 2 ans, c'est Assassin's Creed Odyssey. Là, j'explore la Grèce antique. Je vais pas vous mentir, le compteur est en train de tutoyer les 100 heures de jeu là.
D'accord. Alors on va parler d'argent, pas d'argent, mais de business. On va parler des conséquences du coronavirus. On en a parlé ici sur le cinéma, la musique, la littérature. Et avec vous, Clément, on va s'intéresser sur ces conséquences au niveau du secteur du jeu vidéo.
Oui, alors disons-le, on n'a jamais autant joué aux jeux vidéo que pendant le confinement. Consoles en rupture de stock, record de connexion aux plateformes en ligne. On a compté parfois sur certains jeux qui d'habitude ne connaissaient pas de record, plus de 12 millions, là où il y en avait peut-être 7 ou 8 d'habitude. Enfin, c'est vraiment des chiffres monstrueux. Tout le monde, ou presque, hein, s'y est mis pendant ce confinement. Et il y a un chiffre pour illustrer ça qui vient d'être publié. Aux États-Unis, les joueurs ont dépensé 1,5 milliard de dollars en jeux vidéo en avril, en un seul mois. Rendez-vous compte, c'est 73% de plus que le même mois l'an dernier. Enfin, c'est vraiment énorme et une tendance se dessine. C'est l'essor des jeux dématérialisés, c'est-à-dire qu'on télécharge au lieu d'acheter en boîte. Ça commençait à naître, à se faire sa petite place. Eh bien, écoutez Julien Villedieu, le délégué général du SNJV, le syndicat national du jeu vidéo.
Pendant la période du confinement, du fait que les magasins physiques étaient fermés, cela a permis de doper les ventes digitales et d'ailleurs le mois d'avril a été le premier mois dans l'histoire où les ventes dématérialisées sont passées devant les ventes physiques en termes de revenus. Donc c'est une première et ça amorce effectivement un changement probablement de mentalité du côté des joueurs.
Et le grand vainqueur de cette période de confinement, il s'appelle Animal Crossing New Horizons. Je vous en avais parlé ici, oui. Même le simulateur de vie trop mimi de Nintendo, véritable bulle de cocooning en cette période un peu compliquée. Eh bien, il s'est écoulé à plus de 13 millions d'exemplaires dans le monde en à peine 6 semaines. C'est un record absolu pour cette franchise.
Et ça marche à ce point Animal Crossing qu'il a même fait la une du Monde Magazine il y a 2 ou 3 semaines. Donc on peut dire Clément que le jeu vidéo est un gagnant du confinement.
Eh bien oui et non, c'est un peu plus compliqué que ça. Certes, c'est sans doute le loisir qui s'est le mieux porté pendant ces 2 mois si on compare au cinéma qui n'a quasiment pas existé. Mais cela ne veut pas dire que le jeu vidéo en sort forcément grandi. La première conséquence du confinement, c'est que plusieurs jeux vont être reportés faute d'avoir pu réunir les équipes de développement dans le sprint final. Tout le monde était en télétravail et forcément pour peaufiner un jeu, c'est un peu compliqué. Et c'est le cas par exemple de The Last of Us Part 2. Tout le premier opus sorti en 2013 est considéré comme un des meilleurs jeux de tous les temps. C'est une histoire post-apocalyptique assez forte, très émouvante. Alors autant dire qu'il y a de l'attente pour cette suite. Et le numéro 2 devait sortir le 29 mai finalement. Eh bien ce sera le 19 juin. 3 semaines de délai supplémentaire, c'est aussi le tarif pour Ghost of Tsushima, un jeu de samouraï très alléchant que j'avais mis dans mes jeux les plus attendus de l'année. On aurait dû dégainer notre sabre le 26 juin, mais j'en peux plus d'attendre. Mais je vais devoir prendre mon mal en patience jusqu'au 17 juillet comme tout le monde.
Ça, c'est la musique de Ghost of Tsushima. Si ce ne sont que des jeux reportés, Clément, c'est pas trop trop grave. Ou est-ce que je dis une bêtise ?
Alors, c'est effectivement, s'il y avait que des reports, ça irait. Sauf que les jeux vidéo, c'est un peu comme le cinéma, là, encore une fois. Les sorties, elles sont soigneusement programmées. Il y a un agenda, un calendrier. Et l'été, c'est clairement pas la meilleure période. Là où le cinéma, justement, c'est un peu la grosse période, le jeu vidéo, c'est l'inverse. L'été, il fait beau, on a envie de sortir, on part en vacances. On part pas en vacances avec sa PS4 dans le sac à dos. Hein, c'est pas possible, ça. Donc, forcément, on joue un peu moins. Et alors, qui plus est, quand on sort de 2 mois de confinement, là, même moi, alors, je suis un grand fan de jeux vidéo, j'aime beaucoup jouer aux jeux vidéo. Là, j'ai quand même un petit peu envie de remettre ma manette au placard pour aller prendre l'air, revoir des gens et profiter du soleil. En plus, il fait un temps magnifique. Donc, forcément, il faut s'attendre à une période un peu creuse ces prochains mois avec moins d'attente des joueurs et forcément des conséquences parfois très négatives sur certaines entreprises comme le craint Julien Villedieu du SNJV.
Du fait de l'absence d'événements au cours desquels on se rencontre, au cours desquels on échange, on propose ses projets, on sait que certaines sociétés, notamment celles qui sont prestataires de services et qui interviennent en bout de chaîne, risquent de connaître des mois extrêmement sombres et on sait d'ores et déjà que certaines ne se relèveront pas de cette crise. Je dirais pas que ça va être un coup d'arrêt, je pense que la croissance sera toujours là. Aujourd'hui, l'enjeu c'est 2021.
Ah oui, on travaille pour 2021, ça veut dire quoi exactement Clément ?
Bien, ça veut dire qu'on attend les prochaines consoles. Si tout se passe bien, la PlayStation 5 de Sony et la Xbox Series X de Microsoft sortiront en fin d'année et c'est un petit peu un phare, si vous voulez, pour les éditeurs puisque là, forcément, depuis quelques mois, s'il n'y avait pas eu le confinement, il n'y aura pas eu de vente de consoles extraordinaire. Les gens attendent forcément, ils disent tiens, il y a une console dans un an, je vais pas en acheter une dans l'année.
On attend Noël, surtout.
Exactement. Ouais. Donc ces consoles, elles seront sur toutes les listes de Noël et elles vont donner un coup de fouet à ce marché là qui va peut-être connaître des mois difficiles. Donc, il y aura les consoles, et puis qui dit nouvelle console dit nouveau jeu. Là, tous les éditeurs travaillent pour justement sortir leurs jeux sur ces prochaines consoles. Là, la PS4, la Xbox One, oui, les jeux sortiront dessus, mais c'est plus la priorité. Les gens, les éditeurs développent des jeux pour la nouvelle génération. Donc, on laisse passer l'été, qui va être compliqué, ça on l'a bien compris. On croise les doigts pour cet automne, il y aura peut-être un ou deux jeux qui vont permettre au marché de bien se porter. Et direction directement 2021, qui s'annonce donc comme une année faste pour le jeu vidéo. Et forcément, eh ben, on a hâte d'y être.
Et nous y serons. Merci beaucoup Clément Le Saffre, à très très bientôt dans Culture Média.
Europe 1. Les portraits inattendus d'Hélène Manarino reviendront dès que nos invités reviendront comme elle en studio. En attendant, on va réécouter avec grand plaisir ces portraits qui sont de vraies perles. À suivre sur Europe 1, celui de Leïla Slimani.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
Oui, et donc Culture Média, ce matin, on est très heureux, Philippe, d'accueillir Claude Lelouch.
Bonjour Claude Lelouch.
Bonjour.
Où êtes-vous Claude? Vous êtes à Paris ou vous êtes à Monaco?
Non, je suis dans ma voiture, là, en train de remonter sur Paris.
Voilà. Ah dis donc, c'est le sujet, essayez de ne pas aller trop loin, qu'on ne vous perde pas. Pas besoin de vous présenter, un homme et une femme, les uns et les autres, tout ça pour ça. Référence dans le monde entier, à tous les sens du terme. Jamais vous n'avez cessé de tourner, jamais cessé de produire vos films. Et la preuve, vous tourniez hier dans les rues de Monaco. D'où ma question, la date n'est pas choisie au hasard. S'il n'y a pas eu le Covid, ça aurait été le Grand Prix de Formule 1 de Monaco. Et vous n'étiez pas tout seul pour ce tournage. Racontez votre idée, Claude Lelouch.
Écoutez, comme le hasard a toujours du talent, voilà, et la principauté de Monaco, le prince Albert avait très envie que ce Grand Prix qui a été annulé puisse quand même exister d'une façon ou d'une autre, et il m'a appelé en me demandant si je serais d'accord pour qu'on fasse l'équivalent de la traversée de Paris dans Monaco, voilà. Ouais. Avec Charles Leclerc, l'un des meilleurs pilotes du monde, etc. Et donc, j'ai trouvé cette récréation formidable. J'ai toujours aimé les voitures, la vitesse, voilà. Donc, ça m'a permis de remettre la machine en route après ce confinement, voilà. Et c'est vrai que pendant deux jours à Monaco, on s'est bien amusé et c'était formidable de pouvoir faire ce message d'espoir comme ça. C'était une façon de dire voilà que le cinéma reprenait, que la compétition continuait, et voilà. Alors on a fait tourner deux Ferrari pendant deux heures sur le circuit, ce qui fait que le Grand Prix a quand même eu lieu avec comme seul spectateur le prince Albert.
Alors voilà. Faut le dire, Charles Leclerc qui est pilote officiel Ferrari, c'était quel modèle de Ferrari?
Ben c'est la T90 avec 1000 chevaux, enfin ouais. Un engin absolument incroyable.
Elle est voilà, sublime.
Qui vous colle au siège, voilà. Non, et je pense que les spectateurs vont avoir quelques sensations agréables.
Vous étiez dans la voiture, dans une des deux voitures, Claude.
Oui, bien sûr. Ben, pour filmer, j'étais dans les deux voitures et puis j'avais accroché un peu des caméras partout pour qu'on ait le sentiment d'être dans le plus beau manège du monde.
Voilà. Vous avez roulé jusqu'à quelle vitesse et est-ce que vous avez eu peur?
Écoutez, on a fait des petites pointes à 250 quand même. Et puis, non, j'ai pas peur parce que quand je suis avec un très bon conducteur, j'ai pas peur. J'ai peur quand je suis avec un mauvais. Mais avec Leclerc, j'étais en toute confiance.
On est voilà. D'accord. Alors, ça se passe sur le circuit de Monaco, sans les rails, sans les tribunes, mais aussi sans la circulation. Comment va s'appeler le film?
Eh bien écoutez, pour l'instant ça s'appelle Le Grand Rendez-vous, puisque le premier film s'était appelé Pour un Rendez-vous, ouais. Vous voyez, et celui-là on va l'appeler Le Grand Rendez-vous, donc ça sera un film de 5 à 6 minutes comme ça, qui va permettre à tout le monde de rouler à 250 à l'heure dans les rues de Monaco, voilà, et ouais. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de barrière de sécurité, on roule vraiment à une vitesse folle dans une vraie ville. Voilà.
Alors, le grand rendez-vous c'est aussi sur Europe 1 le dimanche de 10h à 11h, alors évidemment, vous faites hommage à cette traversée de Paris complètement dingue que vous aviez réalisée en 76, je veux dire, ce film de 76, je le regarde à peu près une fois par an, voire deux fois par an, c'est 8 minutes, vous partez d'un tunnel du périph' de la Porte Dauphine pour arriver jusqu'à Montmartre, mais à l'époque, vous n'aviez aucune autorisation. Combien de feux rouges grillés à l'époque?
Eh bien, écoutez, à l'époque, alors c'est un film dont je suis à la fois très fier et dont j'ai un peu honte. Vous voyez ce que je veux dire?
Parce bien
que
sûr.
On voit dans ce film tout ce qu'il ne faut pas faire au volant d'une voiture, mais le film raconte l'histoire d'un homme qui un rendez-vous avec qui a un rendez-vous amoureux, et quand on est amoureux, on peut pas arriver en retard. Vous voyez ce que je veux dire?
Bien
donc
sûr,
il prend tous
sûr.
Les risques.
Ouais.
Donc c'est un coup de folie comme ça. On a fait une prise. Le tournage du film a duré 10 minutes. Le temps du film, c'est un plan séquence. Et c'est vrai que ça reste aujourd'hui dans le cinéma la seule cascade en plan séquence sans trucage. Vous voyez
bien
ce que
sûr.
Je veux dire? Voilà, il n'y a pas de montage. Il n'y a pas de montage, et les feux rouges, c'est des vrais feux rouges, les stops, c'est des vrais stops. Donc, la peur, elle est naturelle, voilà. Donc, c'est ce qui fait le charme de ce film qui, je vous dis, c'est un coup de folie. Je plaide coupable, mais j'ai bien fait enfin, je sais pas, écoutez, voilà.
Moi, je l'adore. Alors, moi aussi. Je plaide coupable.
Aujourd'hui, c'est un des films les plus vus au monde.
Évidemment. Moi aussi, je plaide coupable parce que je le regarde. Alors, il y a deux légendes qui se contredisent. Il paraît que c'est vous au volant et il paraît que c'est un pilote professionnel. Quelle est la vérité?
C'est un petit quelqu'un de prendre de tels risques, je dis.
Claude Lelouch, on est en train de vous perdre. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais on est en train de vous perdre parce que vous êtes dans un endroit où on ne vous entend plus. On marque une toute petite pause, on récupère Claude Lelouch, on va vous faire entendre aussi Charles Leclerc, qui est le pilote F1, qui pilote cette voiture filmée par Lelouch hier dans les rues de Monaco.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Claude Lelouch est notre invité pour parler, Philippe, de ses projets et notamment du film Le Grand Rendez-vous, tourné sur les chapeaux de roue hier à Monaco.
Les chapeaux de roue, c'est le cas de dire, pendant 2 heures dans une Ferrari pilotée par Charles Leclerc. Et je parlais justement de ce film mythique, complètement dingue, réalisé en 76. En 8 minutes, vous alliez de la Porte Dauphine jusqu'à Montmartre sans aucune autorisation. C'était fait à l'aube, évidemment, en grillant les feux rouges, une quinzaine, une vingtaine. Je vous demandais, mais on ne vous a pas entendu, deux légendes se contredisent. Il paraît que c'est vous au volant, il paraît que c'est un pilote professionnel au volant. Qui était au volant de ce film mythique de 76, Claude Lelouch?
Non, mais la vérité, c'est moi. On ne peut pas demander à quelqu'un de prendre ce genre de risque, vous voyez ce que je veux dire?
Bien sûr.
Je peux demander à un cascadeur s'il y a il y avait, comme on n'avait aucune autorisation, j'étais prêt à me sacrifier au cas où il y aurait un vrai problème. On ne peut pas demander ça à quelqu'un. Vous voyez, donc c'est moi qui conduisais et c'est vrai qu'à un moment donné, on a essayé de faire croire que c'était un pilote. Non, je vous garantis, on était 3 dans la voiture.
Ouais.
Il y avait moi qui conduisais, il y avait mon chef opérateur qui faisait le diaph, et puis j'avais un chef machinot qui nous avait attachés comme des mulets.
Voilà. Le diaph, c'est le diaphragme, parce que parfois l'image est claire et parfois elle est foncée. À l'époque, ça pouvait pas se faire de manière automatique. Justement, en parlant de modernité, Charles Leclerc a dit que c'était une version un peu plus moderne, ce que vous avez filmé hier. En quoi est-ce plus moderne?
Bah écoutez, d'abord parce que je me suis permis de raconter une toute petite histoire.
Ouais.
Donc je vous réserve la surprise, voilà. Et puis on a fait joujou parce que comme le circuit était complètement fermé, on a pu prendre des risques qu'on n'aurait pas pris dans une ville ouverte.
Oui. Ouais.
Donc je pense que les spectateurs vont faire un joli tour de manège. Voilà. En plus, il y avait quand même quelques travaux sur le circuit, vous voyez, dont on s'est servi aussi, donc on passe au milieu des travaux.
Ah ouais.
Je veux dire que c'est pas simplement un circuit, c'est le circuit mythique de Monte Carlo, qui reste sûrement un des plus beaux circuits qui soit au monde, mais avec quelques travaux, avec des parfums de vérité d'aujourd'hui, comme ça, qui fait que on n'a pas du tout le sentiment d'être sur un circuit. Je pense que si on avait tourné la même chose sur un circuit, les émotions n'auraient pas été les mêmes.
Voilà. Charles Leclerc a raconté ce que ça lui a fait de tourner avec vous, Claude Lelouch, d'avoir été choisi.
C'est un grand honneur pour moi de pouvoir tourner dans ces films, et surtout un film qui a été aussi mythique par le passé, qui est Le Grand Rendez-vous, qui était tourné à Paris, de le refaire ici dans une version un petit peu plus moderne à Monaco, chez moi, ça fait plaisir et c'est un grand honneur.
Et alors le plus dingue, c'est que ce projet ne s'est pas fait en 1 an, ni en 6 mois, ni en 3 mois, mais en 3 semaines. C'est ce que nous raconte Charles Leclerc. Il raconte également, Claude Lelouch, votre rencontre à tous les deux.
La première fois que j'ai rencontré Claude, c'était avant-hier, dans sa chambre d'hôtel. Il m'a fait un dîner un peu privé, parce que bien sûr, tous les restaurants sont fermés.
Comment ça s'est passé?
Bah, super bien, super bien. Il est très fan de voiture en général. Et du coup, on s'est tout de suite super bien entendu.
Comment il est, Charles Leclerc, Claude Lelouch?
Écoutez, il a le charme de la jeunesse, et puis il est d'une modestie redoutable. Et ça, je trouve que quand on est courageux et modeste, on a toutes les qualités du monde, vous voyez. Il fait preuve parce qu'au volant, il faut vraiment y aller quand même. Et puis, je vous dis, dans la vie, il est d'une modestie absolument incroyable. Il n'est pas... il frime à aucun moment, alors qu'il est aujourd'hui sûrement un des plus grands pilotes du monde.
Ouais.
Donc, mais cette modestie, j'adore quand les gens qui ont du talent savent rester modestes. Vous voyez ce que je veux dire?
Ouais.
Parce que ça prouve qu'ils ne sont pas au bout de leur performance. Je pense qu'il a... il va vachement nous étonner. Je pense qu'il a tout ce qu'il faut pour être le futur champion du monde.
Pour connaître un peu les pilotes de F1, c'est un trait qu'ils ont en commun. Ils sont souvent très, très, très modestes. Ils ne se la pètent pas. Ils laissent ça aux types qui font des courses sur le périph' à deux à l'heure. Claude Lelouch, c'est comment de tourner avec le coronavirus? Faites non, j'ai mal posé ma question. Je recommence. C'est comment de faire tourner des acteurs qui portent un masque?
Eh bien, écoutez, ça fait tout drôle. On a le sentiment d'être dans un film d'horreur, vous voyez?
Ouais.
Parce que même les acteurs portaient, alors vous allez voir dans le film, même le prince Albert porte un masque, Charles porte un masque, il y a une jeune fille qui joue, qui remet des fleurs à la fin, qui porte aussi un masque.
Bon.
Donc c'était tout à fait absolument incroyable. Je crois qu'on est le tout premier film à avoir fait un film avec ces restrictions.
Ouais.
Et alors ça peut presque être drôle. Voilà.
Alors attendez, je vous interromps parce que je voudrais un mot de votre prochain film qui va sortir le 13 juin, La Vertu des Impondérables, tourné avec un smartphone si je suis bien informé, qui ne va pas sortir en salle mais seulement sur Canal+, c'est bien ça?
Oui, oui, parce que j'ai envie que les gens ne perdent pas l'habitude d'aller au cinéma,
ouais.
Vous voyez ce que je veux dire? Et donc on a décidé que ce film de cinéma passerait, puisque les salles sont interdites en ce moment, donc on va sortir le film le 13 juin sur Canal.
Le Parisien parle d'un casting. Ouais, le Parisien parle d'un casting boule à facettes. Il y aura qui dans le film?
Eh bien, il y a Stéphane de Grotte, Marianne de Nicourt, Béatrice Dalle, Elsa Silberstein, et puis plein de surprises.
J'ai encore d'autres noms.
Plein de surprises.
Et moi, j'ai encore Agnès Soral, Harry Habitant et Philippe Lelouch. Et disons, c'est pas mal, hein.
Eh bien, voilà, j'allais vous les dire.
Ouais.
Ce que je veux dire. Et donc, c'est des copains, ce sont des gens formidables. Et quand j'ai fait ce film à toute allure, puisque c'était au départ un film expérimental, au départ, ça devait être même un film qui ne devait pas être destiné à sortir. On voulait voir jusqu'où on pouvait aller avec un portable. Et puis je les ai appelés, je leur ai dit « Est-ce que vous êtes libres en ce moment ?» Ils sont venus et puis on s'est amusés comme des fous et on a fait un vrai film au lieu de faire des essais. Et je suis ravi de montrer ce film expérimental et en même temps qui est un film sur la vertu des impondérables, car on peut pas... C'est l'époque que nous traversons, c'est vraiment aussi la preuve qu'on peut transformer les échecs en succès et que... le mal est l'inventeur du bien et que toutes les catastrophes, quelque part, peuvent aussi nous permettre de faire des progrès. Voilà. Donc c'est un sujet qui tombe très bien par rapport à la période.
Merci beaucoup Claude Lelouch. Ce film sera à voir le samedi 13 juin à 22h30 sur Canal+. Et le même jour, on verra le court-métrage que vous n'avez évidemment pas monté avec Charles Leclerc à fond la caisse dans les rues de Monaco. Merci d'avoir été avec nous. Vous pouvez passer la cinquième maintenant, Claude Lelouch.
On vous l'a promis, ils sont de retour. Les portraits inattendus d'Hélène Manarino. On écoutera celui de Laila Slimani dans un instant. Mais avant, musique avec la douce voix de Clara Luciani et le titre phare de son album Sainte Victoire. On écoute l'abbé sur Europe 1.
C'est un pont perdu sur l'Atlantique. C'est exotique, c'est exotique. C'est un grand secret sous les palmiers. C'est fantastique. Je pourrais te montrer. Pour y aller, c'est très facile. Ferme les yeux et laisse sans trôner les tessiles. Déjà, nous y voilà. Bienvenue sur la terre. Ce n'est pas Paris, et ce n'est pas Londres, ce n'est pas Berlin, ni même Hong Kong, pas Tokyo. Et il fait si chaud. Bienvenue sur la terre. On est si bien.
ici, rien à se cacher, rien à se cacher. Et le jus des fruits entre leurs doigts vient se glisser. Je pourrais te montrer, pour y aller c'est très facile. Ferme les yeux et laisse s'entremêler des cils. Déjà, nous y voilà, bienvenue sur la terre.
C'était Clara Luciani avec l'Abbé sur Europe 1.
Europe 1.
Et dans un instant, comme promis, on retrouve les portraits inattendus d'Hélène Manarino sur Europe 1.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
On vous avait annoncé le retour des portraits inattendus d'Hélène Manarino. C'est un best-of évidemment, puisque le portrait, ça fonctionne si elle est dans le studio et que regard se passe. Donc on va la réentendre et c'est le premier aujourd'hui, Céline.
Oui, vous en manquez hein, ces portraits inattendus d'Hélène Manarino. Eh bien, les revoilà, on va réécouter ensemble le portrait inattendu de Laila Slimani.
Bonjour Laila Slimani.
Bonjour.
Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Alors Lilou, Lilouze, Lily Biquette, la plupart de vos surnoms, vous avez toujours été très bavarde et lorsqu'on vous le faisait remarquer, petite, vous répondiez avec assurance « C'est ma bouche, je dis ce que je veux ». Sachez que vous avez le droit de réagir donc pendant ce portrait.
On ne va pas s'en priver. Hein.
Non. Ah, Biquette, ça m'étonne que vous connaissiez Biquette.
Eh ben, c'est le principe
c'est
d'Hélène Manarino.
Secret, d'accord.
Non, c'est plus un secret.
Non, ça y est,
trop
c'est
tard.
Dit. Alors Laila Slimani, vous êtes la personne la plus organisée. Lorsque vous programmez des vacances, tout est organisé des mois à l'avance et il faut respecter le programme. Impossible de vous faire une surprise pour votre anniversaire. Vous avez déjà tout calé. Vous n'avez presque jamais rien oublié dans votre vie, sauf une fois votre sac à main, mais dans un train au Japon, pays le plus organisé. Donc, il a été retrouvé tout de suite. Vous avez organisé la soirée des 20 ans de votre master. Vous êtes toujours accompagné de petits carnets. Vous notez tout. Vous êtes la championne des to-do list. Vous listez les choses à faire, les choses à acheter, les restaurants à tester, les vêtements que vous désirez. Vous êtes passionné de ce que aussi peuvent raconter les gens qui vous entourent, vous notez leurs phrases et l'une de vos occupations préférées, aller au cinéma le matin, vous asseoir derrière les personnes âgées et écouter leurs conversations.
Non, c'est vrai,
c'est vrai. Mais les personnes âgées ont des phrases extraordinaires, donc je note tout, je les adore. Mais mes copines retraitées, je les adore.
Alors, moi aussi, Laila Slimani, j'ai listé les choses que j'avais envie de vous dévoiler ce matin. Et commençons par l'enfant prodige que vous avez été.
Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Qu'est-ce que je vais faire demain ? C'est ce que je me dis tous les matins.
Vous viviez presque au rythme de Starmania ou d'autres comédies musicales. Vous enchaîniez les spectacles avec votre sœur. Vous riviez devant Fred Astaire. Et vous connaissiez par cœur ça.
Supercalifragilisticexpialidocious. C'est vrai que ce mot trop long est parfaitement atroce. Mais faut le dire et vous faites
la chanson Marie Poppins.
Ah bah oui. Petite, vous étiez l'une des seules à être heureuse de recevoir un livre à Noël. Vous vouliez manger des légumes verts ou uniquement des sandwichs aux olives. Et à l'âge de 5 ans, vous écoutiez un dîner entre vos parents et leurs amis. Ils parlaient du conflit israélo-palestinien. Vous avez 5 ans. Qu'avez-vous fait? Vous avez demandé innocemment qui a commencé avant de revenir à table pour dire « j'ai la solution, il faut qu'il se demande pardon ».
Wow.
Phrase que vous répétez souvent, vos parents, lorsque vous disputiez avec votre sœur. Alors, Leïla Slimani, enfant prodige, passionné, à qui l'on a donné le premier rôle pour la pièce de théâtre de fin d'année au lycée, pièce de Bertolt Brecht. Mais le plus impressionnant, c'est peut-être cette tirade de la pièce Andromaque de Racine que vous aviez fait répéter à l'une de vos sœurs également. Vous la connaissiez par cœur et encore aujourd'hui. Si je vous dis...
Où fuyez-vous, madame? N'est-ce point à vos yeux un spectacle assez doux que la veuve d'Hector pleurant à vos genoux? Oui, oui, tout à fait. Je l'avais fait réciter à ma grande sœur et mes parents étaient étonnés parce que je l'ai écoutée 3 fois et je la connaissais par cœur. Et je les ai saoulés avec ça, mais des
vous
nuits
aviez quel âge
et des nuits durant. Je devais avoir 6 ans, je pense, quelque chose comme ça.
Enfant prodige. Hein. Ouais. Alors, Leïla Slimani, l'excellence, vous la touchez aussi avec votre côté bonne vivante, frigo toujours plein. Et il y a toujours une bouteille de champagne, apparemment, à l'intérieur.
Toujours.
Alors, on est dispo, nous, après l'émission. Cuisinière hors pair, lorsque vous voyagez, comme au Mexique, par exemple, que vous repérez une bonne recette, vous demandez au cuisinier sur place pour refaire la même chose.
Je rentre toujours dans les cuisines quand j'aime le plat.
Dans les restos?
Dans les restos, je toque et je dis, excusez-moi, est-ce que je peux rentrer? Vous pouvez me montrer comment vous avez fait? Et la plupart du temps, ils sont très accueillants, ils me montrent les recettes, j'adore ça.
Il vous arrive aussi donc, voilà, d'être très très donc, attentive à tout ça, fêtarde aussi, et souvent là-dessus.
J'en reviens pas.
Ouais, c'est vrai ça aussi.
Oui,
ouais.
C'est vrai.
Ah, mais tout est vrai.
Ouais.
Non, je suis très fêtarde. J'adore sortir, j'adore danser.
Voilà, sur Madonna, festive, apéro, c'est sacré. Alors, en ce moment, votre apéro, Leïla Slimani, c'est le Negroni.
Ouais.
Gin, Campari, zeste d'orange.
Absolument. C'est une ivresse tout à fait particulière, le Negroni. C'est
ah
mon
oui
ami Olivier Guèze qui m'a fait découvrir ça cet été en Toscane, qui nous préparait des Negroni d'anthologie. Et voilà, donc j'ai adopté ce cocktail.
D'anthologie, mais avec modération.
Oui, avec
toujours
modération, évidemment.
Toujours,
évidemment.
Alors voilà, c'est votre apéro en vacances, peut-être pour vos prochaines que vous envisagez aux Canaries. Alors, Lilouze, Lily Biquette, merci d'être là ce matin. J'ai été ravie de rencontrer l'excellence.
Merci beaucoup.
Merci Hélène, vous vous reconnaissez bien.
Ah ben absolument, non, toutes ces infos sont vraies. J'arrive à peu près à percevoir qui a balancé, donc
ouais,
je vais passer quelques coups de fil.
Ce n'est pas le but, normalement.
Quelques coups de fil tout à l'heure. Non, mais pour les remercier, parce que c'est très mignon. Merci beaucoup.
Quel plaisir de retrouver ces confidences. À demain pour un nouveau portrait inattendu. Demain, 9h, Culture Média avec l'humoriste Nawel Banani pour l'émission Rendez-vous en terre inconnue. Et puis l'écrivain Guillaume Musso qui publie un nouveau récit, La vie est un roman. Oui, c'est un roman. À demain.
À demain Philippe Vandel.
À demain Céline.
Dans un instant, ça fait du bien avec Anne Romanoff, toute sa bande et leurs invités. Aujourd'hui, la romancière Aurélie Valogne et Patrick Bruel.